et déjà entendu plein de fois, des choses que vous avez certainement même dites plusieurs fois, plein de fois, une phrase qui est devenue aujourd'hui comme une évidence, c'est « qui se ressemble, s'assemble ». Hein, on est tous d'accord, on a bien entendu ça plusieurs fois, on l'a dit nous aussi, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Est-ce que on peut vraiment dire ça ou pas? Moi j'ai envie de dire bah ouais, pourquoi pas, c'est plutôt vrai en fait. Parce que est-ce qu'on voit des chiens traîner avec des chats? Non, clairement, ma chienne n'aime pas les chats, les chats n'aiment pas ma chienne. Et pareil, les fourmis, j'ai embêté plein de fourmilières, j'ai jamais trouvé une souris à l'intérieur d'une fourmilière. Pourquoi? Parce que bah, les fourmis restent ensemble et les souris restent ensemble. Et qui se ressemble? Ça semble, ça paraît une évidence, vraiment. Et pourtant, ce que j'avais envie de dire et ce par quoi je voulais commencer ce matin, c'est que quand on parcourt la parole, on est forcé de constater que le message biblique, il dit l'inverse. Le message biblique, il dit l'inverse. C'est pas qui se ressemble, ça semble. Elle parle très peu de ressemblance. Elle parle de notre ressemblance à Christ uniquement. Mais elle parle peu de ressemblance en dehors de ça. Par contre, la Bible parle énormément de diversité. Et elle en parle, et elle en reparle, et elle en parle de manière abondante. Et la diversité fait partie du cœur, en fait, du message biblique, et notamment dans la dimension de l'Église. Alors la diversité, on la trouve déjà depuis la Genèse. Hein, elle est au cœur de la création. Quand on lit dans Genèse 1, 27, « Dieu créa l'homme à son image ». Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la création, alors que Dieu dit « faisons l'homme », le résultat de ça, c'est qu'il y a de la diversité. Il y a l'homme et la femme. Et les deux sont l'image de Dieu. D'accord ? La diversité fait partie de la création. Elle est placée en fait dans l'humanité. En tant qu'humanité créée, nous sommes créés avec une diversité qui représente Dieu et qui représente qui il est. Et donc ça, c'est depuis le départ. On peut aller jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'Apocalypse, parce que cette diversité, elle reste présente jusqu'au bout. Et dans Apocalypse 7, 9, on peut lire « Après cela, je regardais ces gens qui parlent et de la vision qu'il a, et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Et ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main. Alors non, la diversité, elle ne disparaît pas avec le temps. Hein ? Elle n'a pas été créée au départ et puis dans le plan que Dieu déroule au travers de l'histoire, cette diversité a tendance à s'amenuiser. Non. Et des fois, on se focalise un peu sur cette dimension de « on sera tous habillés avec des robes blanches » comme si on se dit « au ciel, on va tous être identiques ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette pensée-là. Moi, elle m'a habité à certains moments donnés, de me focaliser sur cette robe blanche et de me dire « ok, on va tous avoir une robe blanche, des feuilles, on va tous dire en plus la même chose » parce que cette prière et ce chant, ouais. Je me suis dit « on va tous être pareils ». On va abandonner nos corps, on va avoir des corps glorifiés, transformés, on va tous se ressembler. Comment je vais faire pour reconnaître ma femme? Mais quand j'ai repris ces versets, j'ai réalisé à quel point la révélation qui est accordée à Jean, elle met une emphase bien plus importante sur cette diversité de peuples qui louent Dieu. Des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Enfin, il y a une insistance sur cette diversité qui est là. Alors non, la diversité ne disparaît pas dans l'histoire. Et l'Église locale, non plus, qui elle est au milieu. L'Église locale, elle n'échappe pas à ce principe. Dieu, il nous sauve, il nous place dans le contexte d'un corps, il nous a placés les uns à côté des autres, dans cette dimension de l'expression locale de l'Église au sens large, d'accord ? Mais à aucun moment donné, il ne fait de nous des gens uniforme. À aucun moment donné, le message biblique dit que Dieu nous transforme pour être semblables les uns aux autres. À aucun moment de la parole de Dieu, nous sommes appelés à abandonner qui nous sommes et la manière dont Dieu nous a fait pour devenir quelqu'un de conforme, en fait, à un standard de l'Église ou quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment faire tomber ce mensonge-là, si jamais c'est quelque chose qui vous habitait, de vous dire qu'en devenant chrétien, il faut atteindre un espèce de standard formaté pour ressembler à Non, c'est bien qu'on ait des exemples, c'est bien qu'on ait des modèles, c'est bien qu'on voit des choses qui sont bonnes chez les autres et qu'on a envie de vivre de la même manière, mais non, nous ne sommes pas appelés à être uniformes. De la même manière que Dieu crée l'homme en créant l'homme et la femme, d'accord, nous sommes appelés ensemble à refléter l'infinie palette de couleurs qu'est notre Dieu. Dieu est, on l'a un peu touché ce matin, mais infiniment grand. Il n'y a pas de mesure à l'infini. Il n'y a pas de limite possible posée à la description de Dieu. Et qui est un homme pour dire « je suis l'image de Dieu » Non. On a besoin les uns des autres et dans toute notre différence, dans toute notre diversité. Et j'aimerais nous encourager là ce matin, pour commencer, à voir cette diversité-là comme un trésor, comme une richesse. De reconnaître en fait la richesse de la diversité que Dieu a placée au milieu de nous dans l'Église. Parce que c'est une richesse et c'est un sujet de louange à Dieu. Merci Seigneur parce que c'est toi qui ajoutes à l'Église et donc les différentes têtes que je vois ce matin, c'est le Seigneur qui les a ajoutées là. Merci Père pour ce que tu fais. Merci pour cette richesse que tu as placée à côté de moi. Mais, parce qu'il y a un mais, dans cette diversité, il y a un enjeu qui est absolument capital, c'est l'unité. D'accord ? Et quand on est l'Église ensemble, quand on est cette expression locale et temporelle de l'épouse de Christ, le dessein, c'est d'être un peuple uni, hein, selon ce que Dieu a voulu parfaitement. Et donc, il y a un enjeu d'unité. Et si je parle, et là aussi, je voudrais poser ça dès le départ, si je parle d'unité ce matin, j'en parle de manière complètement libre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un problème au milieu de nous. D'accord ? Et si je fais un message sur l'unité ce matin et sur l'Église unie, ça va être l'objet de ce qu'on va traverser ensemble, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes d'unité, ce n'est pas parce qu'on est divisé, ce n'est pas parce qu'il y a des querelles, ce n'est pas parce qu'il y a des conflits. Non, mais c'est simplement parce que il me semble que c'est un sujet qui est important. Et notamment dans le contexte qu'on traverse aujourd'hui, qui cherche à diviser, qui cherche à séparer, qui cherche à scléroser en fait les gens, les croyances, toutes ces choses-là, c'est un message qui est incroyablement important pour nous en tant que communauté, pour nous en tant que peuple. Hein ? On démarre là une nouvelle série sur l'Église. On a vraiment envie de passer, en tout cas au moins le premier trimestre, à dire, ok, l'Église, c'est quoi ? Ce qu'on est ensemble, c'est quoi ? Ça aussi, c'est un message qui est tellement important et qui est très large. Il y a tellement de choses à dire là-dedans, donc ça va largement nous occuper un trimestre. Et je voulais commencer par ça. L'Église, c'est être ensemble un peuple uni. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais ? Bon, ben, je peux arrêter mon message alors. Non, mais on est d'accord, mais c'est un enjeu. Voilà, et c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle encore ce matin. Donc, puisqu'on parle d'unité, je voulais qu'on se plonge dans ce que l'unité est, selon la parole de Dieu, qu'on regarde un petit peu ça. Et puis, j'aimerais commencer par là, c'est de dire ce qu'elle n'est pas. Parce qu'on considère souvent, en fait, la question de l'unité comme un préalable au bien vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que nous le présente notre société. Hein. C'est soyons unis, acceptons nos différences, unissons-nous. Pourquoi ? Ben pour vivre en paix. La finalité, c'est celle-là. D'accord ? Et souvent, dans notre compréhension de l'unité, on est modelé par cette pensée-là que nous devons nous unir et travailler à l'unité pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir vivre paisiblement. Et là encore, le message biblique, il dit l'inverse. Et c'est important, là, ce qu'on va dire maintenant. C'est important. Éphésiens 4, 3, Paul nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et donc, c'est l'inverse. Il y a un switch à faire. On ne doit pas chercher à être unis pour être en paix. Hein ? On ne doit pas rechercher la paix pour vivre. On ne doit pas rechercher l'unité pour vivre en paix, mais on doit rechercher la paix entre nous. Et de cette manière-là, nous pourrons vivre l'unité. D'accord ? Ne faisons pas un mélange entre l'unité et juste la paix. Entre nous, ce sont deux choses différentes. Donc, recherchons la paix entre nous et alors nous vivrons l'unité. Et pourquoi le sens de ce qui est décrit est comme ça ? Pourquoi c'est la paix d'abord et l'unité ensuite ? Eh bien, parce que l'unité, c'est une finalité. Et la paix, c'est un moyen. D'accord ? La paix n'est pas la finalité de ce à quoi Dieu nous appelle entre nous, c'est juste un moyen par lequel nous allons vivre l'unité. Alors ça paraît bizarre ce que je suis en train de dire, et justement, ben, la question c'est de se poser, c'est l'unité c'est quoi ? Et j'aimerais qu'on puisse prendre de la hauteur ensemble ce matin sur qu'est-ce que c'est l'unité. Si l'unité c'est pas juste d'être en paix et d'être accordés les uns aux autres, qu'est-ce que c'est ? Et j'aimerais qu'on prenne que cette unité dans nos cœurs, elle prenne un peu de relief, elle prenne un peu de matière, elle prenne un peu de sens pour que ça nous donne envie de la vivre. Et premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que l'unité, elle est divine. L'unité, elle est en Dieu, et l'unité, elle vient de Dieu. Et on commence par là. D'accord ? L'unité, elle ne vient pas de l'homme. L'unité, elle est en Dieu. Dieu, il est Père, il est Fils, et il est Esprit. Il est trois personnes distinctes, trois personnes qui coexistent de toute éternité. Et en même temps, Dieu est aussi un seul Dieu. Et un au sens le plus littéral, le plus mathématique, le plus numéraire que vous puissiez imaginer du un. D'accord ? Quand la Bible dit que Dieu est un seul Dieu, c'est ce un unique, numéraire. C'est pas deux, c'est un. Hein, on retrouve ça notamment dans la profession de foi du peuple d'Israël, qui est citée à plein d'endroits, hein, notamment en Deutéronome 6,4, quand on nous dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un », c'est ce chiffre-là, le Seigneur est un seul Dieu. Et pourtant, littéralement, on devrait pouvoir lire par rapport à la manière dont c'est écrit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, les dieux est ». Il y a une dimension d'un Dieu pluriel qui s'exprime au singulier. Et c'est ça l'unité dont il est question en Dieu. D'accord ? D'un Dieu qui est à la fois trois personnes et pourtant tellement uni de manière parfaite qu'il peut s'exprimer au singulier. Donc, un seul Dieu, une unité, j'ai envie de dire mystérieuse, elle transcende notre compréhension rationnelle, notre compréhension cartésienne. Si vous voulez comprendre et focaliser sur le fait que Dieu est trois personnes et que c'est complètement incroyable, vous allez vous perdre là-dedans. Si vous voulez comprendre que Dieu est absolument un, vous allez vous perdre aussi là-dedans. C'est mystérieux, ça nous dépasse. Parce que nous, on reconnaît juste que 1 plus 1, ça fait 2. Alors les jeunes, si demain vous allez à l'école et que vous dites que 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, à vos profs de maths, vous allez avoir un petit problème. Ils ne vont pas comprendre. Mais nous aussi, on a du mal à comprendre ça. D'accord ? On a du mal. Et pourtant, c'est une réalité. Donc, acceptons cette part de mystère. Reconnaissons juste qu'il y a une dimension de l'unité en Dieu qui nous dépasse. Et l'unité vient de lui. Et cette dimension de l'unité nous dépasse, clairement. Mais je voudrais qu'on focalise là-dessus parce que ça nous donne la mesure. Quand la parole de Dieu parle de l'unité, elle parle de l'unité selon la mesure de qui Dieu est. C'est cette unité-là dont il est question. Une symbiose qui est tellement parfaite que je peux être pluriel et m'exprimer au singulier. Tellement parfaite que l'ensemble qui est formé par l'union de ces trois personnes, il est aussi unique au sens de un que chacune des parties qui le composent. C'est-à-dire que dans cette unité-là, le Père n'est pas un tiers. Le Père est un, et le Fils est un, et l'Esprit est un, et les trois sont un aussi. Voilà, j'espère que j'arrive à vous faire toucher un petit peu de cette dimension irrationnelle, difficile à comprendre, d'abandonner les mathématiques, d'abandonner cette pensée grecque dans nos cœurs, d'accord, de vouloir rationaliser, comprendre Dieu, comment il fonctionne, qui il est. Non, il y a une part de mystère là-dedans. Et voilà, j'aimerais juste nous encourager à réaliser que la dimension de l'unité, on peut déjà la poser comme ça. Une pluralité, qui s'exprime au singulier. Et deuxièmement, sur qu'est-ce que c'est l'unité ? Eh bien, l'unité, elle se trouve dans la création de l'homme. On en a parlé tout à l'heure. Dieu crée l'homme selon ce même modèle. Hein ? L'unité, elle n'est pas réservée exclusivement à Dieu. Dieu a choisi que cette unité, elle était partagée avec l'homme. Quand il crée l'homme, on a parlé de diversité tout à l'heure. Hein ? On a dit, il crée l'homme et la femme, il crée la diversité. Mais tout de suite après, quelques versets ou quelques chapitres plus loin, selon là où on en est, on voit que l'homme, il est aussi appelé à devenir un. Avec ce même terme, de la même manière que Dieu est un. Lui aussi, hein, quand, dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et donc Dieu nous crée avec une grande diversité, c'est dans son dessein parfait. Et de la même manière qu'il est trois et un, nous sommes appelés aussi à devenir un. Donc il y a aussi un dessein de l'unité qui est donné à l'humanité au moment de la création. C'est incroyable de réaliser que cette dimension mystérieuse dont on a parlé juste avant, qui appartient à Dieu, qui est irrationnelle, elle fait aussi partie de notre humanité, elle fait aussi partie de ce à quoi Dieu nous appelle. Et donc, l'unité, elle n'est pas apparue en opposition à la division. D'accord ? L'unité dans la parole de Dieu et le fait que Dieu nous appelle à l'unité, elle ne vient pas du fait que Dieu a résolu un problème de division entre les peuples en disant « soyez unis ». Et c'est intéressant de poser l'unité de cette manière-là aussi, de réaliser qu'elle fait partie du dessein de Dieu. Elle n'est pas un remède, elle est un but, elle est un objectif, elle n'est pas un moyen pour atteindre la paix, mais la paix est le moyen au moment où il y a des divisions pour atteindre cette unité. Hein, c'est pas l'homme et la femme qui se sont dit « nous allons nous unir pour bâtir un couple solide, hein, nous allons nous unir ensemble pour être quelque chose de solide et qui va tenir dans le temps ». Dans Genèse, c'est Dieu qui déclare que l'homme et la femme ont été créés pour devenir une seule chair. Ils ont été créés pour s'unir. Et donc, l'unité au milieu de nous est une déclaration divine. Elle est un commandement. Elle est l'ordre naturel des choses que Dieu a placé au milieu de nous. Elle n'est pas une volonté humaine. Elle n'est pas un dessein humain. Vous me suivez tous jusque-là ? Je suis en train de mettre les briques de Lego. J'essaye, hein, dans le bon sens pour tout le monde. Et donc, troisièmement, et ça, je trouve que c'est incroyable aussi, Dieu nous rend participants de son unité. Quand on parle de l'unité, on ne peut pas passer à côté du fait que Dieu a choisi que nous serions participants à cette unité divine, irrationnelle, infinie dont on a parlé tout à l'heure. Hein ? En tant que chrétien né de nouveau, on participe au travers de Christ à cette unité-là. Et je voulais juste qu'on lise Jean 17, 20 à 23, cette prière de Jésus que je trouve tellement belle. Ce n'est pas seulement pour ceci que je demande, donc Jésus priait, il parlait de ses disciples là, donc ce n'est pas seulement pour ceci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, c'est nous tous, afin que tous soient un. Ils mettront leur foi en moi, et je te prie pour eux, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est, je trouve, incroyable ce que Jésus est en train de déclarer là. Jésus, il ne s'adresse pas à son Père avant la chute. Il s'adresse à son Père alors que l'homme est pécheur. Il s'adresse à son Père alors que la création tout entière a été tordue par le péché et par la désobéissance de l'homme qui a dit « Mais moi, je veux être comme Dieu. Je veux sortir de l'obéissance à Dieu et je veux faire mes propres choix moi aussi. Je veux sortir de là. Ce qui se passe, c'est qu'il se désunit à ce moment-là. Et cette prière de Jésus qui est complètement incroyable, qui dit « Mais en fait, dans ce que je vais faire, dans le dessein Père que tu as choisi d'accomplir, c'est que nous allons restaurer ce qui était prévu depuis le tout départ, à savoir que l'homme est créé pour participer à cette communion parfaite avec le Père, le Fils et l'Esprit. » Et moi, je me dis, mais c'est juste incroyable. On passe des fois tellement rapidement sur le fait de dire « je suis en Dieu ». Est-ce qu'on réalise notre état de pécheur, la saleté de nos cœurs? Est-ce qu'on réalise ce qu'on est, les conséquences qui pèsent sur nous depuis la chute et que pourtant nous sommes accueillis dans le sein de Dieu? Je trouve incroyable que le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble, ce soit que nous participions de manière complète, pleine. Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a deux mesures différentes, qu'il y a la mesure de l'unité de Dieu lui-même, du Père, du Fils et de l'Esprit ensemble, et puis qu'il y a l'unité rapportée à un degré moindre du reste de l'Église que Jésus a sauvée et que le Père a donnée à Christ et qui va participer dans une moindre mesure à ça. Jésus n'est pas en train de faire une séparation ou un clivage ou une différence de mesure entre ces deux unités-là. Le dessein de Dieu, c'est que nous participions pleinement à cette unité avec Dieu. Et on en a les prémices aujourd'hui, et uniquement les prémices. Et vivement, Seigneur, qu'on puisse le vivre pleinement. Et qu'alors que nous sommes unis et en Dieu pour l'éternité, nous continuions de passer l'éternité, du coup, à ouvrir grand nos yeux pour découvrir qui il est encore, encore, encore et encore. Merci, Seigneur. Je trouve que c'est une grâce, mais ça remplit mon cœur de louange quand je pense à ce dessein parfait que je ne méritais pas de dire que Dieu choisit que je participe à cette unité divine et que chacun d'entre nous, nous y participions aussi. Et j'ai envie de dire, voilà en fait le point focal vers lequel converge tout le plan du salut. C'est que nous participions à cette unité. Et quand on parle de l'intimité avec Dieu, quand on parle de prendre du temps dans la présence de Dieu, quand on parle de la bataille que c'est des fois, souvenons-nous de ça. Souvenons-nous de ça, souvenons-nous que c'est un dessein, c'est pas juste une obéissance, c'est pas juste un moyen, c'est un objectif. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, participer à l'unité parfaite du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Oh, quelle est belle ta parole, Seigneur. Mais dans tout ça, avant de parler d'unité, on a parlé de diversité et je me dis qu'il y a une question qui est vraiment légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que la diversité, elle peut être un obstacle à l'unité? D'accord? Et on va peut-être passer rapidement là-dessus. Je propose qu'on regarde brièvement en fait, quelques exemples qui montrent que ce n'est pas le cas. Hein, on va regarder ça dans la parole de Dieu. Dieu, en fait, il utilise la diversité tout au long de l'histoire et elle ne vient jamais en contradiction. Vous ne trouverez pas un moment où la diversité est en contradiction avec le dessein de Dieu. D'accord? Et on va voir autre chose un tout petit peu après. Donc on a parlé déjà de l'homme et la femme qui étaient créés différents, mais qui sont appelés à être une seule chair, qui sont appelés à être ensemble à l'image de Dieu. Je vous propose, on va parvenir dessus, je vous propose qu'on regarde aussi l'histoire d'Israël rapidement, et notamment tout ce qui va concerner l'accueil de l'étranger. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à chercher dans la parole de Dieu toute la dimension de l'accueil de l'étranger au sein d'Israël. Cette dimension qui amène une diversité au milieu du peuple. Et notamment, je voulais juste lire Lévitique 24-22 qui dit « Il y aura un même droit pour l'immigré et pour l'autochtone. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Et ce passage-là est une des nombreuses références dans l'Ancien Testament à la manière dont les Israélites devaient se comporter avec les étrangers qui demeuraient au milieu de nous. Il y avait deux types d'étrangers qui passaient au milieu du peuple. Il y a ceux qui traversaient, juste, qui étaient de passage, qui venaient commercer avec Israël. C'est une partie des étrangers. Vous allez trouver une partie des références qui concernent ce type d'étrangers-là, des étrangers de passage. Mais vous allez trouver aussi beaucoup de versets dans lesquels il est décrit que Israël, les étrangers demeurent et vivent au milieu d'Israël. Et je trouve que c'est interpellant de voir ça parce qu'on voit souvent Israël comme une espèce de coquille, d'accord, fermée. C'est Israël versus le reste du monde dans la parole de Dieu. C'est Israël, le peuple choisi, versus toutes les autres nations qui ne sont pas choisies par l'Éternel. Et il y a un peu cette espèce de clivage entre le peuple d'Israël d'un côté, le reste des nations de l'autre. Et en fait, quand on approche nos yeux et qu'on ouvre en fait un petit peu cette coquille, on se rend compte qu'Israël lui-même est un représentant de toutes les nations. À l'intérieur d'Israël même, l'étranger devient lui aussi quelque part héritier d'une partie des promesses de ce peuple là, et qu'il n'y a pas ce clivage absolu. La dimension de la diversité, elle existe au sein d'Israël. Il y a une grande diversité qui est là dans ce peuple. Et notamment, je vais en donner quelques exemples, Ruth, C'est un des exemples qui m'est venu quand je préparais ce message, qui est là aussi une étrangère. Et Ruth 1, 15 et 16, on peut lire qu'il y a Noémie, sa belle-mère, qui dit « Ta belle-sœur est retournée à son peuple, à ses dieux. Retourne, toi aussi, elle s'adresse à Ruth, hein, retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Et Ruth, qu'est-ce qu'elle répond ? « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Et donc, Ruth, elle était une étrangère à ce moment-là. Hein. Noémie, elle lui dit de retourner. Mais malgré le fait que Ruth était une étrangère, qu'elle était différente, elle choisit de s'unir. Elle choisit d'attraper l'unité de ce peuple-là et de dire « Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est ici que je veux planter mes racines. C'est à côté de toi que je veux vivre. » Et quand on va un petit peu plus loin dans l'histoire de Ruth, on se rend compte que c'est pas quelque chose d'annexe dans le plan de Dieu. L'histoire de Ruth, elle n'est pas quelque chose qui s'est passé à côté, où finalement l'accueil de l'étranger est juste quelque chose qui vient traverser Israël et qui n'a pas une grande importance. En fait, non. Ruth, elle occupe au final une place centrale dans le plan du salut. À la fin du livre de Ruth, on voit que Ruth, elle donne naissance parce qu'elle a épousé Bouz, et elle donne naissance à Obed. Vous savez qui c'est Obed ? C'est rien de moins que le grand-père de David. C'est le grand-père de David qui devient l'héritier du trône d'Israël, le grand roi d'Israël, ce type de Christ que nous trouvons à ce moment-là. Et derrière David, dans la lignée de David, qui est-ce qu'on trouve ? On trouve Jésus. On trouve Jésus. Et c'est juste incroyable de se dire, ces clins d'œil que nous donne l'Éternel, qu'au travers d'une étrangère qui a choisi de s'unir, malgré sa différence, Dieu utilise ça dans son plan parfait pour que cette étrangère-là fasse partie de la généalogie de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi plein d'autres exemples sur la manière dont Dieu il utilise la diversité. On va aller vraiment très vite. Je voudrais juste citer par exemple l'équipe des 12 disciples, et on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais l'équipe des 12 que Jésus il a réunis, il y avait absolument tout pour que ça ne fonctionne pas. Clairement, Jésus a choisi des disciples qui étaient extrêmement divers. Il y avait une diversité d'origine, une diversité de culture, une diversité de statut social. Il y a des choses qui étaient même un peu antinomiques entre eux, une diversité de métiers, une diversité de personnalité, de tempérament. Il y avait tout dans cette équipe pour que ça ne marche pas. Et pourtant, Jésus, il a choisi ces 12-là et il leur a donné le monde. Il leur a dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre ». Et au travers d'eux, on continue de courir dans cette même chose. Et Dieu nous choisit de la même manière, avec toute notre diversité. Donc, cette équipe des 12, elle est un bel exemple de comment Dieu utilise la diversité pour son plan parfait, pour amener le salut dans toutes les nations. Et un peu plus loin, on a les apôtres qui aussi ont été confrontés à des querelles dans l'Église, entre les Juifs, les Grecs, les Romains, etc. Là, je parle juste des origines, mais il y a aussi d'autres types de querelles qu'il y a eu. Et dans l'Épître aux Romains, par exemple, je voulais juste prendre cet exemple ce matin. Si je grossis vraiment le trait, d'accord, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a Paul qui est confronté grosso modo à des païens qui reprochent aux Juifs la trop grande part que prend l'obéissance à la loi dans leur foi et dans leur manière de vivre Christ. Et on a les païens dans cette même église qui reprochent aux Juifs d'être trop attachés à cette dimension de la loi, alors que Christ a accompli plein de choses qui font qu'on peut vivre sans avoir la même obéissance rituelle à la loi telle qu'elle était dans le peuple d'Israël. Donc il y a ce contexte-là qui est posé dans l'église de Romains, où on a une diversité d'origine de gens, des juifs premièrement, qui sont les héritiers de la promesse et qui ont reconnu Christ et qui sont dans cette église de Rome, et en même temps, à Rome, plein de Romains qui sont là et ils viennent d'une culture complètement différente, et ça vient s'opposer. Et est-ce que c'est un argument ? Ça pourrait l'être pour dire que la diversité, elle est effectivement un obstacle à l'unité. Quelque part, oui. Ouais. Quelque part, en tout cas, ça montre l'enjeu. Ça montre l'enjeu que représente la diversité, ça montre l'enjeu que représente la différence entre nous vis-à-vis de l'unité. Mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est la manière dont Paul s'y prend dans ce contexte-là. Est-ce que Paul... il dit aux païens, Mettez un peu d'eau dans votre vin. Faites quand même un peu d'obéissance à quelques lois. Est-ce qu'il dit aux Juifs, mettez un peu d'eau dans votre vin vous aussi, et puis bon, voilà, faites quelques compromis avec la loi pour plaire quand même aussi un peu aux païens, et quelque part on éteint le feu comme ça. En fait, Paul dit absolument pas ça, et il dit quelque chose que je trouve juste extraordinaire. Il s'adresse aux païens au travers de sa lettre, il s'adresse à ceux aux Romains, et il leur dit, regardez les Juifs avec honneur. Honorez-les. Voyez comme ils sont supérieurs à vous. Dites-leur, mais c'est juste incroyable que ce soit grâce à vous que Jésus soit là sur la terre. C'est vous qui avez tenu pendant tant d'années cette loi parfaite sur cette terre. C'est vous qui avez reçu en héritage les promesses que Dieu avait pour toutes les nations du monde. Combien c'est riche, combien vous êtes plus grand que nous, combien vous êtes supérieurs dans ces choses-là, combien on réalise qu'on est aujourd'hui en fait au bénéfice de tout ce que vous avez traversé. Et voilà ce qu'il dit aux Romains, honorez-les, considérez-les comme supérieurs. Mais dans cette même lettre, Paul il s'adresse aussi aux Juifs et il leur dit, regardez les païens avec honneur, honorez-les. Dites-leur, mais combien vous êtes supérieurs à nous. Vous adorez sans avoir vu sa puissance agir de manière incroyable au milieu de vous. Vous n'avez pas vu ces miracles, les plaies, vous n'avez pas vu la mer s'ouvrir, vous n'avez pas connu depuis tant de générations la main de Dieu à l'œuvre, la présence de Dieu établie au milieu du peuple, et pourtant, vous croyez juste parce qu'un homme est venu marcher. Waouh, quelle foi! Combien vous êtes supérieurs à nous. Et voilà la réponse que Paul propose dans cette église de Rome. C'est de regarder celui qui est différent et de dire, je veux t'honorer pour ta différence. Je veux pas que tu deviennes comme moi. Je veux t'honorer pour qui tu es. Je veux t'honorer dans ta foi. Je veux t'honorer dans ton histoire. Je veux t'honorer dans ce que tu traverses. Je veux t'honorer dans la saison dans laquelle tu es. Je veux t'honorer dans ce que tu comprends aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à déborder les uns sur les autres, à nous enseigner, à nous changer les uns les autres, bien sûr. Mais combien c'est important que le terreau préalable soit cet honneur les uns pour les autres. J'aime beaucoup ce qu'a dit Farid tout à l'heure, parce que c'est vrai. Des fois, on ne s'exprime pas toujours avec honneur. Et même si le fond peut des fois être juste, ce n'est pas juste la manière dont on va dire ces choses-là. Et on doit veiller à ça entre nous. À préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc, ça m'amène sur ce troisième et dernier point qui est la diversité dans l'Église, au milieu de nous. Parce que c'est pareil pour nous, comme dans l'Église de Rome, hein, alors qu'on est une communauté qui rassemble des gens, on l'a dit tout à l'heure, de tous les âges, on a de toutes les langues, de toutes les nations, je ne vais pas dire de toutes les tribus, mais de toutes les cultures, de tous les statuts sociaux, on a vraiment une grande diversité dans l'Église. Je loue le Seigneur qu'on ne soit pas une Église ethnique, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais du coup, les occasions de paix d'accord entre nous, elles sont nombreuses, les amis. Les occasions de ne pas avoir la même compréhension d'un passage biblique, elles sont nombreuses entre nous. Les occasions de ne pas être d'accord sur la manière dont on va réagir dans telle ou telle situation, ou la manière dont on va exprimer notre louange, ou la manière dont on va prêcher, ou la manière dont on va prendre la scène, ou la manière dont on va arriver à l'heure au culte. Elles sont grandes, ces occasions de ne pas être d'accord ensemble. Mais qu'en aucun cas, ces occasions-là ne soient des occasions de nous désunir. Laissons-nous toujours guider par les exhortations de Paul, et je vais en citer quelques-unes dans Romains, dans Philippiens, dans Éphésiens. Paul qui nous dit « Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour celui qui est faible dans la foi. » Romains 14, 19 à 21 dit « Ainsi donc poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Ne va pas détruire l'œuvre de Dieu, sous-entendu dans la vie de ton frère, pour un aliment, pour une histoire d'aliment. Certes, tout est pur, parce que c'est ce qu'il a dit avant, mais il est mauvais de faire de sa nourriture une pierre d'achoppement. Si je pose un jugement sur tu dois manger ça, tu dois pas manger ça, etc., etc. Il est beau de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui est, pour ton frère, une cause d'achoppement. Si je suis invité chez vous et que vous me faites un repas vegan parce que vous dites « La parole de Dieu, elle interdit de manger de la viande », est-ce que je serais d'accord ? Non. Je ne trouve pas ça dans la parole. Est-ce que pour autant, je vais m'insurger ? Est-ce que pour autant, je vais condamner ? Est-ce que pour autant, je vais juger ? Non. Non. Si c'est une occasion de chute pour mon frère, c'est une pierre d'achoppement, si c'est quelque chose qui potentiellement va faire tomber l'autre, non, l'unité prime. L'unité prime. La paix entre nous prime sur la vérité, sur l'absolu. D'accord ? Dans Philippiens 2, versets 2 et 3, Paul nous dit aussi « Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. » Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité, mais avec humilité au contraire, estimez les autres, supérieurs à vous-même. Et on retrouve cet encouragement dans Philippiens que Paul utilise, c'est l'arme qu'il utilise à Rome pour dire, voilà, considérez-vous les uns et les autres comme supérieurs, soyez dans une bataille de l'honneur. On veut vous honorer, non, c'est nous! C'est nous qui vous... Bon, après, il y a du coup des divisions par rapport à ça, mais... Mais considérons l'autre comme supérieur, comme digne d'honneur, y compris dans ce pourquoi on n'est pas forcément d'accord. Pourquoi ? Parce que souvenons-nous que c'est le dessein de Dieu d'avoir placé cette personne-là à côté de nous. Ça ne m'appartient pas. Et que l'unité, ce n'est pas moi qui l'a créée, c'est Dieu qui nous la met devant nous en objectif. Et reconnaissons aussi que l'unité de l'esprit, c'est un don de Dieu. On ne peut pas juste compter sur notre propre capacité à être unis ou à rester unis. Dans ce que j'ai dit juste avant, on a peut-être l'impression qu'on a des choses à faire et j'aimerais juste terminer sur ce point-là en nous rappelant que sans l'Esprit, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous arme de patience, nous arme d'être des instruments de paix. C'est quelque chose qui fait partie du fruit de l'Esprit en nous. Alors, demandons au Seigneur de faire grandir ce fruit-là dans nos cœurs. Demandons à ce que son esprit nous fasse grandir dans ce caractère divin. Comme Christ, qui a été mais tellement patient, avec tellement de gens qui ne comprenaient rien. Qui a été tellement humble face à des gens qui l'ont crucifié, mis à mort, qui se sont moqués de lui. Il avait mais tellement de raisons de revendiquer sa royauté, de revendiquer qui il était, et il aurait raison. C'est ce qu'il était, le Dieu de toute éternité. Il pouvait justifier de leur cracher à la figure, de leur balancer qu'ils n'avaient rien compris. Et que puisque c'était comme ça, il claquait la porte. Il aurait pu le justifier de mille manières. Et pourtant, il ne le fait pas. Pourquoi ? Préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Jésus nous montre un exemple incroyable, un exemple ultime, certes, mais il nous montre un exemple qui est tellement fort pour nous et que nous devons rechercher à vivre. Éphésiens 4, 1 à 3, je vous encourage donc, moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Par le lien de la paix. Donc j'ai parlé de l'église ethnique tout à l'heure et j'aimerais conclure par là en disant ne soyons pas une église ethnique. On va peut-être se regarder et puis se dire il y a peu de chances qu'on le devienne. Mais j'ai envie de dire oui, on ne l'est pas au sens propre du terme. D'accord ? Effectivement, on n'est pas tous... Je vais grossir le trait, hein. On n'est pas tous une église d'asiatiques qui se retrouverait en France et qui rassemblerait uniquement des gens d'origine asiatique ou des gens de certaines îles. Il y a des églises de Réunionnais, il y a des églises de Martiniquais, il y a des églises de Portugais. Aux États-Unis, il y a des églises de gays aussi. C'est une ethnie. Et quand l'église commence à afficher qu'elle rentre dans un cadre unique d'une seule partie de ce qui représente le peuple de Dieu, c'est dangereux. Et donc oui, on n'est pas une église ethnique au sens propre du terme. J'ai valorisé toute la différence qu'on avait entre nous tout à l'heure, mais j'ai envie de dire, ne le soyons plus, pas non plus dans notre culture chrétienne. Ne soyons pas une église ethnique de notre culture, d'accord ? Ou l'ethnie occidentale à la peau claire qui a deux enfants et un chien, ok ? Et une chemise à carreaux quand il prêche. Ça nous fait sourire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Ne cherchons pas la pensée unique au milieu de nous. Ne cherchons pas la culture unique au milieu de nous. Hein? Cultivons cette richesse, cultivons cette diversité, cette grandeur de vivre l'unité dans la pluralité. Et cette capacité que nous pouvons avoir à parler au singulier en tant que communauté, en tant qu'église de Marguerite, dans les plans que Dieu y met sur notre cœur, d'avancer d'un seul cœur pour ce que Dieu met là-devant, tout en sachant que derrière, ce sont des hommes et des femmes de tout âge, de toute culture, de tout statut social, de toutes origines, etc., qui acceptent de travailler ensemble. Et quel que soit notre arrière-plan culturel, social, la longueur de notre histoire avec Dieu, cherchons de manière consciente et concrète à préserver l'unité de l'esprit au milieu de nous. D'accord ? Ne cherchons pas à créer l'unité. Cherchons à préserver celle que l'esprit donne. Comment ? En recherchant la paix. En recherchant la paix. Et je finirai par là. Je finis à chaque fois par autre chose. Satan cherche à dévorer. D'accord ? Par tous les moyens. Satan est un lion rugissant qui cherche à dévorer. Et cette dimension de l'unité, Satan va chercher à venir la manger, va venir la voler, il va bouger nos cœurs par rapport à ça. Il va nous conduire dans des contextes où on ne va pas exprimer la paix au milieu de nous. Soyons juste vigilants par rapport à ça. Et plus encore dans le contexte actuel, j'en ai parlé tout à l'heure, qui crée des clivages aujourd'hui. Qui crée des clivages. On va en parler un tout petit peu cet après-midi. Mais attention à ne pas faire de clivage au milieu de nous, mais à rechercher cette unité. Et je finirai par ces deux versets. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Parce que c'est un témoignage évident de ce que Dieu fait quand nous choisissons de nous aimer. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, qui lui est semblable à celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Aimons Dieu de tout notre cœur, aimons-nous les uns les autres. Soyons une église unie. On l'est, soyons-le encore plus. Aspirons à vivre les trésors de l'unité au milieu de nous. Ce qui se passe quand, dans le terrain de la paix, l'unité est donnée par Dieu au milieu de nous, sur chacun de nos cœurs. Et que à Dieu seul en soit rendue toute gloire. Amen.